Sophie Morale, 20 octobre 1982, père Philippe Rimond.
Donc, les deux qui le font, et pour que tout le monde s'y intéresse, pour que tous s'y intéressent, dans la mesure du possible, c'est un peu une œuvre commune. Alors, je crois que ce séminaire, tout le monde y assiste. Oui. Deuxième et troisième année. Il est évident que la première année, dans la mesure où la première année déborde sur la seconde année, alors il y a toujours une possibilité pour la première année de pouvoir exister, dans la mesure où ça les intéresse. Parce qu'au fond, on n'a pas besoin d'être des cloisons trop imperméables. Parce que, vous voyez, dans la première année, ça recouvre des quantités de diversité. C'est très vrai, c'est très divers. Alors, il est normal que dans la première année, il y en ait des gens qui ont déjà fait un peu de philosophie et qui peuvent donc suivre et s'intéresser à cela. Ça, ce sera à voir et à préciser. Vous préciserez ça avec monsieur assistant, et le frère Jourdain, Benoît, pour essayer de voir comment ce séminaire doit se faire, parce qu'on le fait ensemble. Alors, il faut comprendre que il y a un texte qu'on doit étudier, qu'on doit analyser. Alors, quelquefois, le texte, il est diffus. Hein. Il faut plusieurs textes pour le trouver. Il y a plusieurs endroits pour trouver la proie irrécise d'Aristote. Il y a plusieurs endroits où on trouve la proie irrécise de Platon. Alors, on étudie ces différents textes, on essaie de les prendre, de les saisir, de saisir dans le contexte ce que ça veut dire exactement, et puis le problème qui se pose. Vous voyez, parce que ce titre, c'est pour montrer, chez Sartre, il n'y a plus que la liberté. Chez Platon, il y a la proie irrécise. Je ne dis pas que la liberté n'est pas présente, mais elle est présente dans la proie irrécise. Il faudrait comprendre comment, progressivement, la liberté s'est détachée du choix. Comment ce phénomène, c'est un phénomène philosophique très curieux, évolution de la pensée. Et alors c'est au cœur de l'éthique. Parce que s'il n'y a plus de choix, il n'y a plus d'éthique. Ça c'est évident. S'il n'y a plus de choix, il n'y a plus d'éthique. S'il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de choix non plus. Mais il peut y avoir une liberté sans choix. Alors là c'est très curieux. C'est une liberté très spéciale. C'est ce qu'on appelle la liberté d'exercice. On peut poser une action ou pas la poser, c'est une liberté. Ce n'est pas un choix. Alors, ce sont ces textes qu'il faudra découvrir à travers ces différents auteurs, les exposer, et alors autant que possible, il faut que l'exposé soit écrit. Ça, je crois que c'est important, soit écrit. Parce que ça exige une rédaction. Comme au fond, vous avez très peu de rédaction à faire, c'est bon de l'écrire. C'est pour ça qu'ordinairement, la première année est soulagée du séminaire. Elle peut y assister, mais elle est soulagée du séminaire, elle ne peut pas l'écrire. Alors, il y a un petit travail, c'est un petit travail. Et ça comptera ici, nous ferons compter ce petit travail dans la note de fin d'année. Je crois que ce n'est pas mauvais du tout. À Fribourg, c'est simplement séminaire. Tandis qu'ici, il faut, puisqu'on a dit qu'il fallait des examens, devant, il faut des examens pour l'Église. Alors, je compte mettre que ce petit travail, parce qu'ordinairement, ce petit travail représente vraiment un travail sérieux, on a passé du temps dessus. Donc, c'est normal que le séminaire écrit, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit écrit, compte, si vous voulez, pour un examen. Pour ne pas multiplier trop les examens, ça peut être très bien un examen. Ça peut être une note d'examen, si vous voulez, ça n'empêchera peut-être pas un examen oral. Mais l'exposé oral pourrait le faire du reste. Alors il faut un exposé bref et quelque chose de net, précis, pour permettre une discussion assez longue. Je crois que le séminaire est prévu d'une heure et demie. Hein, une heure et demie. Alors, à peu près.
Deux fois 50 minutes.
Oui, deux fois 50 minutes. Alors, vous voyez, ce serait prévu donc une heure et demie, bonne heure et demie. Et alors, une demi-heure d'exposé, puis après une heure de discussion, où chacun peut prendre la parole, hein, et même c'est souhaitable, mais on prend la parole que dans la mesure où, justement, on a compris quelque chose, et qu'on essaie de, soi-même d'avoir travaillé un peu, d'avoir travaillé la matière et qu'on essaie de découvrir ce que ça représente. Alors évidemment, la discussion n'est pas par écrit, n'est-ce pas ? On peut la prendre par cassette, si on le désire, mais c'est une discussion qui se fait oralement. Bon, je crois que c'est tout à peu près ce qu'on doit faire. Bon, il faut le faire sérieusement. Ça. Je crois que c'est peut-être très important. Alors, maintenant, nous allons entrer, si vous voulez, dans cette partie de la philosophie humaine qui est l'éthique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie de la philosophie humaine. Pour Aristote. L'éthique a commencé avant Aristote. Alors ça, c'est aussi très intéressant à regarder. L'éthique a commencé avant Aristote. Quel est le premier philosophe qui expose une éthique? Posez-vous la question. En notre monde occidental, ce qu'on pourrait se poser dans le monde de l'Inde, on pourrait se poser la question, parce que l'éthique existe, c'est bien évident, et une philosophie éthique existe aussi. Alors, dans notre monde occidental, il faut voir que les premiers écrits, Homère, représentent des écrits qui impliquent une certaine vision de l'homme et une certaine éthique. Mais ce n'est pas un exposé philosophique de l'éthique. C'est un exposé qui nous montre le héros, la grandeur du héros, qui nous montre la grandeur de l'amitié, qui nous montre l'importance de l'homme et de la vie humaine. Mais on ne peut pas dire que c'est vraiment un écrit éthique. Vous avez la même chose chez Hésiode. Hésiode, les travaux et les jours, on ne peut pas dire que c'est une éthique. Il montre beaucoup plus le point de vue du travail. Il montre beaucoup plus le poids du labeur. C'est ça qu'il montre avant tout et en premier lieu. Mais il ne nous donne pas une véritable philosophie éthique. Le premier qui nous a donné une philosophie éthique, je crois que c'est Socrate. Ça ne veut pas dire que le problème éthique est complètement absent avant Socrate. Chez les pro-socratiques, il y a quand même un problème éthique, mais pas exposé pour lui-même. Alors c'est curieux, c'est presque toujours comme ça du reste. Opportet hereses esse, n'est-ce pas ? Il faut qu'il y ait certaines hérésies et certains états de crise pour que apparaissent certaines choses. C'est très curieux, ce sont les sophistes. Ce sont les sophistes, la période des sophistes. Protagoras, hein, pour avoir un mot, un nom. Protagoras, il est devenu immortel grâce à Platon. Tu vois? Alors, Protagoras, il est devenu immortel. Il y a toute une série de sophistes. Les sophistes, c'est la première crise de la pensée. C'est le primat du subjectivisme. C'est pour ça que les sophistes sont mis aujourd'hui très en lumière. Ils sont très flattés. C'est beau aujourd'hui d'être sophiste. Pas pour nous, mais dans un certain contexte. Vous voyez, dans un certain contexte. C'est beau d'être sophiste parce que c'est le primat de la subjectivité. C'est le primat de la subjectivité, c'est le primat de la rhétorique. Sur la recherche de la vérité. La rhétorique, c'est persuader. Alors, les sophistes sont anti-éthiques. Ils cherchent qu'une seule chose, les sophistes. Ils cherchent le pouvoir. Pas l'autorité, mais le pouvoir. Ils ne cherchent que cela. Acquérir le pouvoir par la persuasion. Donc, par la rhétorique. Sachez bien parler, vous allez avoir tout le peuple derrière vous. Sachez bien parler, vous pouvez être sûr de réussir aux élections. Donc, c'est ça le propre des sophistes. Les sophistes, à un moment de crise politique, c'est cette crise de la pensée, on peut dire qu'il y a une crise de la pensée chez les sophistes. C'est la première crise de la pensée. Face au sophiste, nous voyons apparaître Socrate. Cet homme très extraordinaire, c'est Socrate, qui est un sage. Platon est un philosophe et Socrate est un sage. Ça, c'est évident que Socrate a une physionomie très étonnante. Il est à croire que Socrate a été lui-même séduit par les sophistes, au point de départ. Parce qu'on voit toute une critique qui est faite à Socrate en tant qu'il est sophiste. Les nuées, qui sont écrites par Aristophane, le critique, le comique, qui présente Socrate perdu à la manière d'un sophiste dans ses idées dénuées. Socrate aurait été sophiste. Pour se guérir d'être sophiste, il se serait engagé comme militaire. Parce qu'évidemment, le militaire n'est pas précisément sophiste. Et alors on voit Socrate, premièrement, le premier Socrate, sophiste, second Socrate, capitaine, Xénophon, avec Xénophon, on voit un Socrate capitaine. Et c'est vrai que Xénophon nous montre un Socrate courageux au combat. Et puis un troisième Socrate à la fin de sa vie. C'est très très possible qu'il y ait eu ces trois étapes. Un Socrate qui est un sage qui reçoit de l'oracle de Delphes un mot d'ordre. C'est assez curieux. Socrate est un...
C'est un converti.
Il avait déjà un certain âge quand il commence à se convertir et à quitter les sophistes. Mais c'est vraiment à cause des sophistes, progressivement, qu'on voit ça comme une occasion. Et Socrate va lutter contre les sophistes. Mais il va lutter contre les sophistes, vous dites, en voyant très bien qu'il y a une certaine connivence avec les sophistes, pas totale, mais partielle. Et Socrate, sophiste, puis capitaine, puis l'homme de réflexion, le philosophe, le sage, qui se met à réfléchir à partir de l'oracle de Delphes. Ceux qui ont été à Delphes savent que c'est un lieu sacré. Delphes, c'est très étonnant, ça reste très beau et très émouvant. Voilà, Delphes. Et c'est là où Socrate aurait eu l'inspiration. Il est arrivé dans un haut lieu qui est un lieu de culte. Et là, il aurait eu l'inspiration. Et cette inspiration consiste à dire « Connais-toi toi-même ». Ce fameux « Gnotis et Autom ».« Connais-toi toi-même ». Et au fond, la morale commence là. Ça, c'est le berceau de la morale. C'est impressionnant de voir ça. Vous voyez, le berceau de la morale n'est pas du tout le même que la philosophie du vivant. Tout à fait autre chose. C'est intéressant de voir ça, de toujours voir le point de départ d'une philosophie, d'une partie de la philosophie. Quel est le berceau de la philosophie première? C'est pas Delphes. Parménide. C'est la déesse. Hein, des deux côtés, c'est sacré. Vous voyez, le point de départ de la philosophie première, le point de départ de l'éthique, tous les deux, c'est sacré. Cette philosophie, elle dépend, cette connaissance, connais-toi toi-même. C'est la fidélité à la voix intérieure. La voix intérieure qui va nous orienter vers le point de vue. Cette voix intérieure, elle joue un tel rôle chez Socrate. Cette voix intérieure qui lui a indiqué la route. Connais-toi toi-même. Donc, Socrate veut mettre en pleine lumière la dignité de l'âme. Face aux sophistes qui ne regardent que le pouvoir, on va montrer que tout ça n'est rien du tout, qu'il y a la question de l'âme. Vous savez, c'est le cantique sur la grandeur de l'âme. On n'a qu'une âme qu'il faut sauver. C'est exactement ça chez Socrate. Il faut sauver cette âme. Parce qu'on peut avoir des pouvoirs multiples et divers, on peut connaître la réussite ou l'échec, il y a l'âme. L'âme immortelle. C'est ça qu'elle est si chère, parce qu'elle est immortelle. Elle est au-delà de la corruption. Socrate en est persuadé, l'immortalité de l'âme, ça. C'est une donnée religieuse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous voyez que la morale n'est liée à l'attitude religieuse. C'est une chose très importante sur laquelle on reviendra plus d'une fois pour savoir s'il peut y avoir une morale laïque. C'est quand même intéressant dans notre monde d'aujourd'hui. Peut-il y avoir une morale laïque ? Est-ce que, au point de vue philosophique, il faut être honnête, hein, indépendamment de vos a priori politiques, n'est-ce pas ? Il faut essayer de comprendre s'il peut y avoir une morale laïque. Est-ce que la morale peut être une morale coupée de la religion ? Ou est-ce que toute morale s'enracine dans la religion ? C'est que c'est un des très gros problèmes de tous les philosophes, de la morale aujourd'hui. On l'a dit, on le redira encore, que la morale d'aujourd'hui, la philosophie morale d'aujourd'hui, subit une très grande crise. Non seulement la philosophie, mais la théologie morale. Et au moment de crise, on se dit sur quoi ça se fonde ? Sur quoi se fonde la morale ? Le philosophe doit pouvoir dire sur quoi se fonde la morale. Alors, est-ce que ça se fonde sur l'attitude religieuse ? Est-ce que toute morale doit être religieuse ou elle n'existe pas ? C'est pas si commode que ça à répondre. Hein. C'est intéressant de voir que pour Socrate, la morale, c'est nécessairement une morale religieuse qui repose sur le donner immédiat de l'âme immortelle. L'âme est immortelle. Et il s'agit de découvrir, de connaître cette âme immortelle. Alors, nous pourrions noter ici tout de suite, hein, parce que ce serait intéressant à noter aussi. À côté de Socrate, il faudrait noter les pythagoriciens. Pythagore, vous savez, Pythagore, vous avez au moins entendu pythagoricien. Les pythagoriciens, c'est encore plus ancien que Socrate. Hein. Les pythagoriciens, ce sont des communautés religieuses. Des petites communautés religieuses, avec un désir d'une grande ferveur. C'est à partir des pythagoriciens que les différents degrés de vie ont apparu. La vie contemplative, la vie politique et la vie de plaisir. C'est une grande distinction des pythagoriciens. Eh bien, cette distinction, là encore, naît dans un climat religieux. Donc nous retrouvons une morale, la morale pythagoricienne est avant tout une ascèse. C'est avant tout une ascèse. Et je dirais une ascèse d'aliments. Il y a des mets qu'on doit prendre et des mets qu'on ne peut pas prendre. Ça. Ne prenez pas du porc, parce que ça ne va pas du tout. Ne prenez pas des fèves, ça ne va pas du tout. Prenez tel ou tel aliment. C'est un régime très très strict dans toutes les petites communautés pythagoriciennes. Alors, ce qui est curieux, c'est de voir que cette ascèse va impliquer donc une attitude religieuse et une attitude contemplative, et il y aura une philosophie morale qui va naître à partir du pythagorisme, comme à partir de Socrate. Mais il y a un lien entre le pythagoricien et Socrate, ça on ne peut pas nier, il y a quelque chose de particulier. On voit donc une morale qui va naître à partir de l'attitude religieuse. L'attitude religieuse n'est pas mise en doute. L'attitude religieuse qui sera terriblement secouée par les sophistes. Les sophistes sont anti-religieux, sont les premiers. Et quelquefois, ils sont antithéistes, ils sont athées. C'est les premiers en Grèce. Hein. C'est les sophistes athées. Paul Lance est un sophiste athée qui de fait rejette complètement les divinités. Donc, on peut considérer ici que ce premier moment de la morale, connais-toi toi-même. Vous voyez que cette morale implique une introspection. Réfléchir sur soi-même. Donc il n'y a pas que la philosophie morale qui implique une introspection. La philosophie éthique implique cette réflexion sur nous-mêmes. Connais-toi toi-même. Après Socrate, il y a Platon. Il y a une morale platonicienne. Ça, je ne peux pas dire. La morale platonicienne n'est pas celle de Socrate. C'est une autre morale. Qu'est-ce qui caractérise la morale platonicienne ? Ce qui caractérise la morale platonicienne, c'est le point de vue de la contemplation. C'est une morale qui regarde l'âme. On pourrait dire toute la philosophie de Platon, c'est la philosophie de l'âme. Ça, je crois que j'en suis de plus en plus convaincu. C'est le fil conducteur de toute la philosophie de Platon. C'est une philosophie de l'âme. Alors, cette philosophie de l'âme mortelle, c'est bien évident, de l'âme donnée par les traditions religieuses, cette philosophie de l'âme immortelle, cette réflexion sur l'âme immortelle, s'achève dans la théorie. Non, dans la contemplation. Pour Platon, la connaissance de soi conduit à la contemplation. La contemplation de qui ? La contemplation du bien en soi. La contemplation de l'un en soi. La contemplation de la vérité. Cette contemplation présuppose-t-elle des vertus ? Platon parle des quatre vertus cardinales. Les quatre vertus cardinales. C'est très ancien, ça. Les quatre vertus, vous voyez, ça monte tout de suite du point de vue d'une certaine réflexion philosophique sur les quatre vertus. Il y a la contemplation, les quatre vertus cardinales. Et les quatre vertus cardinales sont représentées de façon très étonnante. Par Platon, c'est représenté que l'homme est tiraillé de droite et de gauche. Alors il y a les vertus cardinales qui sont là pour l'aider. Il y a les passions et les vertus cardinales. Les passions qui veulent nous faire tirer en dehors et les vertus cardinales qui sont là pour intérioriser. La morale de Platon, c'est donc la morale de la contemplation et la morale qui nous fait dire que tout le mal moral provient de l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous rend mauvais. Ce n'est pas notre volonté. Si on connaissait parfaitement ce qu'on doit faire, mais on serait bon. On serait bon. Si vous faites mal, oui, ça vous avance. C'est merveilleux, ça vous trompe. Ça vous déculpabilise complètement. Je ne veux pas te culpabiliser, c'est parce que vous avez ignoré. J'ai ignoré ça. Je ne savais pas. Ah, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait, mais je ne le savais pas. Et vous avez fait une grosse bêtise. Enfin, même elle était assez loin dans cet ordre-là. Alors, ça fait que, de fait, seul le point de vue de la connaissance permet le bien. Le bien provient de la connaissance. Et non pas l'ignorance supprime. Après Platon, donc vous voyez, le caractère propre de la Platon, c'est d'être une morale de la connaissance. Puisque la connaissance me rend bon. Et une morale de la contemplation. Aristote va reprendre le problème de l'éthique, ça a été une de ses grosses préoccupations. Et Aristote considère qu'il est plus proche de Socrate que de Platon. Aristote va reprendre le problème de l'éthique à sa manière, dans une perspective réaliste. Plus du tout dans une introspection sur l'âme. Pour Aristote, le problème moral, ce n'est plus le problème de l'âme. C'est là la très grosse différence. Oui. Jusque-là, le problème de la morale, c'était le problème de l'âme et de l'âme immortelle. Tandis que pour Platon, pour Aristote, ce n'est pas le problème de l'âme. Il y a un traité de l'âme qui fonde l'éthique, mais qui n'est pas l'éthique. Aristote, donc là, précise hein, quelque chose. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très très important, ça. Ce n'est plus au niveau de l'âme que l'éthique se situe, ce n'est plus au niveau de l'âme immortelle, ce n'est plus au niveau religieux qu'on trouve le fondement. C'est dans ce sens-là qu'on dira qu'Aristote est un païen. C'est vrai, c'est beaucoup plus païen que Platon. Platon, c'est l'âme immortelle, c'est les attitudes religieuses, c'est les traditions religieuses qui fondent la morale. Et la morale est fondée par les traditions religieuses. Tandis que pour Aristote, non, la morale n'est pas fondée sur une tradition religieuse. La morale est fondée sur l'opération humaine finalisée. Je crois que c'est ça qui fonde la morale chez Aristote. C'est que je suis capable, parce que je suis un esprit, je suis capable d'orienter mon opération, mes activités volontaires, de les orienter vers mon bien. Et je suis uni à ce bien par un certain amour. Et c'est cet amour à l'égard du bien qui me finalise. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Il y a quelque chose là de tout à fait nouveau au point de vue moral. Parce que ce n'est plus le point de vue religieux. Alors, il faudra se demander si c'est juste ou pas juste. Est-ce qu'il faut nécessairement fonder la morale sur la religion? C'est le gros problème, vous savez, de Kant et de Nietzsche. Mais c'est très actuel, c'est Kant et Nietzsche. Nietzsche refuse que la morale repose sur l'attitude religieuse. Alors que pour Kant, c'est l'attitude religieuse. Mais c'est toujours les mêmes problèmes. Hein. Dès que vous touchez la morale, vous devez regarder le problème religieux. Et vous êtes pour ou contre. Ou bien vous êtes à distinguer les deux. Pour Nietzsche, la morale repose non pas sur le point de vue religieux, mais sur le point de vue de la créativité. C'est tout à fait un autre pôle. C'est le pôle de mon inspiration, de ma créativité, qui me permet d'être un être moral. C'est dans la mesure où je crée que je peux être un être moral. Alors que pour Kant, le point de vue de la religion est nécessaire à l'impératif catégorique. Il est lié au religieux. Et c'est ça que Nietzsche ne peut pas sentir. Lier la conscience de l'homme au point de vue religieux, c'est faire de l'homme un esclave. C'est oublier l'autonomie de l'homme. Il y a quelque chose de juste, hein, faut pas l'oublier dans Nietzsche. C'est pour ça que c'est si séduisant. Pour Aristote, vous voyez, c'est ça que je vois. Pour Aristote, la morale n'est pas fondée sur l'attitude religieuse. Elle est fondée sur l'acte humain, volontaire, finalisé. Alors, à ce moment-là, on dira qu'il est beaucoup plus près de Nietzsche. Ou bien Nietzsche est plus près d'Aristote que... Non, c'est encore une autre position. Il faudra voir au terme les diverses positions, hein, les diverses manières de regarder l'activité morale. Parce que c'est intéressant de voir ces diverses manières de saisir l'activité morale, parce que ça montre la complexité, les difficultés qu'on a de saisir ce que c'est que l'opération morale, l'opération éthique. Pour Aristote, donc, il y a une philosophie morale qui trouve par elle-même, et qui doit se trouver par elle-même, dans un développement de l'homme et de l'activité humaine. Pour Aristote, c'est le point de vue de la fin qui va finaliser. C'est la fin qui finalise. Prenez pas Platon en faisant attention. Donc c'est la fin. Parce que le bien est commun aux deux. C'est la fin et le bien, bien de celui qui va finaliser. Et ce n'est plus l'âme immortelle, ce n'est plus le point de vue de quelque chose de religieux. L'opération morale, pour Aristote, est une opération volontaire en vue du bonheur. C'est pour mon bonheur que je suis un être moral. C'est aussi une des notions très importantes à reprendre aujourd'hui. Que la morale ne se comprend pas sans le bonheur. Sans amour, il n'y a pas de morale. Il y a des procédés, il y a des techniques, mais il n'y a pas de morale. Sans un désir de bonheur, il n'y a pas de morale. Un désir de bonheur plus ou moins caché, mais un désir de bonheur. Donc, pour Aristote, c'est la notion de la fin qui apparaît, et qui apparaît primordiale, vous voyez. Et c'est l'opération humaine, dans sa liberté, dans son développement, qui apparaît comme quelque chose de tout à fait particulier. Après Aristote, les stoïciens. Les stoïciens ne veulent pas de la contemplation. Ce sont les fossoyeurs de la contemplation, les stoïciens. Ce sont ceux qui ont rejeté la contemplation en disant « il n'y a que l'action politique ». L'action politique se justifie par elle-même. Cette action politique, c'est l'action humaine la plus parfaite qui soit. Il ne faut pas oublier, c'est les citoyens qui sont les premiers à dire que le philosophe est citoyen du monde. Et qu'un être vraiment libre est citoyen du monde. Parce que c'est ça qui caractérise, je crois, ce fait que le point de vue politique devient si important. C'est le volontarisme qui caractérise l'éthique stoïcienne. L'éthique stoïcienne considère que les passions en elles-mêmes sont mauvaises. Et parce que les passions sont en elles-mêmes mauvaises, il faut les détruire. Le volontarisme stoïcien, le sui compos, être absolument maître de toute la situation, de toutes ses activités, avoir cette force de conquête, volontairement se dominer, être capable de s'orienter comme on veut. C'est donc la volonté qui joue le rôle primordial. Ce n'est plus l'intelligence. Morale volontariste. Vous savez que cette morale volontariste aura un très très grand succès jusqu'à Épictète, alors qu'elle commence sitôt Aristote. Jusqu'à Épictète, et elle sera implantée à Rome en l'an 50, au moment où le christianisme arrivera. Ce sera la morale stoïcienne qui dominera, avec Épictète. Épictète, c'est le philosophe qui était esclave. C'est l'esclave devenu philosophe. Et donc, il y a un sens très très fort. Ce que représente, si vous voulez, la faiblesse de l'homme, la misère de l'homme, et comment on peut, par sa force, par ses poignets, arriver à devenir. Une très grande force d'âme dans Épictète. Au cœur de toute ça, de toute son éthique, parce qu'au fond c'est ça la chose principale, au cœur de toute son éthique, Épictète reconnaît le primat de la liberté. Je crois que pour Épictète, déjà, la liberté est tout. J'ai fait une fois faire un étudiant une licence de philosophie en voyant la liberté chez Épictète et la liberté chez Sartre. C'est très intéressant, c'est parallèle. Mais d'un côté c'est religieux, d'autre côté c'est athée. Toute la petite différence. Épictète c'est religieux. C'est religieux. Il faut obéir à Zeus. faut se soumettre à Zeus. Mais c'est une religion d'immanence. C'est une attitude providentielle immanente. Il faut souligner aussi que ce qui caractérise la morale d'Épictète, comme première distinction, ce n'est pas le bien et le mal. Première distinction, ce qui est en mon pouvoir, ce qui n'est pas en mon pouvoir. Et ça, c'est très important, parce que ça fait comprendre que la morale, à partir des stoïciens, va prendre une orientation toute nouvelle. C'est une morale de la domination. C'est donc une morale d'une efficacité qui n'est plus morale. Parce que c'est l'efficacité qui domine. Si quelque chose ne dépend pas de moi, c'est Épictète qui dit ça, si quelque chose ne dépend pas de moi, je ne dois jamais m'en affliger. Or, la mort de mon ami ne dépend pas de moi, donc je ne dois pas m'en affliger. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Si mon épouse, si je suis marié, si mon épouse meurt, comme ça ne dépend pas de moi, je ne dois pas m'en affliger. Ça va très loin, vous savez, comme attitude. Je ne m'occupe que de ce qui dépend de moi. Oui, morale du pouvoir, morale de la domination. Tout le reste, je ne m'en inquiète pas. Ça peut me toucher, ça, mais c'est du sentiment. C'est du sentiment. La seule chose qui peut me toucher, c'est ce qui dépend de moi. C'est farouche, la morale stoïcienne. C'est terrible. Terrible parce que ça ne cherche pas la finalité. Après la morale stoïcienne, mettez la morale épicurienne. Vous voyez, je note tout simplement les différentes modalités de la morale. Comment la morale s'est présentée à moi, et telle qu'elle se présente toujours à moi. C'est très curieux, vous retrouverez toujours cela. On va le voir après, en terminant. Vous avez la morale épicurienne. Qu'est-ce que c'est que la morale épicurienne? C'est juste l'inverse des stoïciens. Les stoïciens sont des gens très, très sérieux. Ce sont des gens qui dominent parfaitement. Tandis qu'Épicure, c'est pas précisément la morale du sérieux. C'est la morale du plaisir. C'est la morale du plaisir. Mais un plaisir très, très artistique, très intellectualisé. Hein. C'est pas une grosse morale du plaisir, hein, c'est pas ça du tout. Non, les grands plaisirs sont les plaisirs spirituels. Les plus grands plaisirs sont les plaisirs de l'intelligence. Et ce sont ces plaisirs-là qu'on doit avoir en premier lieu devant les yeux. Ce sont les plaisirs-là, les plaisirs matériels, au point de vue sensible, au point de vue de la vie végétative, c'est très secondaire, on ne s'en occupe pas beaucoup. Mais là, c'est plaisir. Ah, on aimera bien quand même la bonne chair, le bon vin, c'est très bien ça. Mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, ce sera la contemplation en tant qu'elle va m'éveiller, des plaisirs, en tant qu'elle va éveiller en moi des plaisirs extraordinaires. Les plus grands plaisirs viennent de là. Donc, morale du plaisir, peu importe les moyens, très curieux, Épicure. Je crois que c'est les seuls Épicures, c'est l'école d'Épicure qui, certaines éditions des textes d'Épicure, notent l'année à partir de la naissance d'Épicure. 400 ans, 300 ans, 350 ans avant Jésus. Où vous en êtes en l'ère épicurienne. Et alors, après Épicure, notez la dernière modalité particulière de la morale de Plotin, qui est une morale mystique, si j'ose dire. C'est le dépassement de la morale par la mystique, par le silence, l'énosis. Alors, ça fait comprendre. Ça fait comprendre que, de fait, dans la morale plotinienne, dans cette morale mystique, que pratiquement, il n'y a plus de morale, est absorbée par la mystique. Mais, je ne voudrais pas, si vous demandez à Plotin si Plotin acceptait la vertu, il dirait, mais c'est évident, mais ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être uni à l'être un. Ce qui est intéressant, c'est d'être uni à l'absolu. Tout point de vue de la morale, ça ne signifie rien du tout. Alors on retrouve ces points de vue-là chez les mystiques. C'est quelque chose de très particulier. L'illuminisme des mystiques. Tout point de vue moral est laissé de côté. Laissé comme quelque chose de second. Alors vous voyez que ces diverses formes morales vont se retrouver tout le temps. Ces six formes de morale. Et on verra comment, de fait, une véritable morale doit mettre en place ces six modalités de la morale, qui sont nées en terre grecque. La morale religieuse, donc connais-toi toi-même, ou la morale des pythagoriciens. C'est une morale religieuse. La morale de Socrate et des Pythagores, donc des Pythagoriciens, la morale de Platon, qui est la morale de la contemplation, et la morale des formes idéales, c'est-à-dire une morale qui est toute immanente. La morale d'Aristote, qui est la morale de la finalité, c'est juste l'inverse, c'est une morale de l'autre, de la finalité, du bien que j'atteins et qui est capable de me perfectionner. C'est ce bien que j'atteins, c'est ce bien qui me dépasse, alors j'aurai les deux aspects, j'aurai la contemplation et l'amitié. C'est ça qui caractérise la morale d'Aristote. C'est qu'Aristote, c'est l'inverse du monolithe. C'est une connaissance analogique qui montre la diversité dans l'univers. Et donc, qui nous fait saisir, vous voyez ce qu'il peut y avoir là, dans ce point de vue, que c'est l'homme, c'est plus l'âme, c'est l'homme. Ce n'est plus l'attitude religieuse, c'est l'opération volontaire vers laquelle je tends. Le bien que je désire. C'est pour ça qu'on dira souvent, morale, du bonheur. Alors, à partir d'Aristote, le point de vue de la volonté, cette puissance extraordinaire des stoïciens qui met en pleine lumière ce que c'est que la volonté. Une volonté de domination, une volonté de puissance. Et puis, la morale du plaisir et la morale plotinienne. Je crois que c'est important de saisir ces différents aspects de la morale. Nous allons donc, nous, essayer à notre tour, en comprenant que le problème est particulièrement important pour nous, particulièrement important parce que, de fait, Kant a repris l'attitude stoïcienne, Kant est à la fois la morale religieuse et l'attitude stoïcienne. En face à Kant, nous avons Freud. Et vous savez comment un disciple de Freud, Hénard, a écrit il n'y a pas si longtemps « Morale sans péché ». C'est un petit livre qu'il faut lire, ça. Parce que c'est intéressant. « Morale sans péché », c'est-à-dire une morale qui se fonde uniquement sur une psychanalyse, et cette morale qui se fonde sur Freud supprime le péché. Il n'y a plus de péché. Donc, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus que plus ou moins bon. Et puis c'est tout. Alors, on comprend dans notre monde d'aujourd'hui, le point de vue de Kant est mis en opposition avec Nietzsche et avec Freud. On a ce triangle. et que par le fait même nous avons beaucoup de peine aujourd'hui à redécouvrir une véritable morale. Je crois que c'est un des caractères très particuliers de notre monde aujourd'hui. On est en présence, si vous voulez, d'une faillite de la morale. Je crois qu'on peut dire ça. Du progrès très intense de la science, du progrès très intense de la psychologie, qui fait qu'on a l'impression que ce n'est plus l'aspect moral qui est premier, c'est l'aspect psychologique qui commande tout. Et quand on est un peu attentif à ça, on s'aperçoit combien l'attitude psychologique dépasse aujourd'hui toutes les préoccupations. Elle est comment ? On décide au niveau psychologique. Oui, c'est pour ça que c'est si important. C'est si important d'essayer de nous poser le problème. Mais où est le fondement de la morale ? Sur quoi repose la morale ? Comment concevoir la morale ? Qu'est-ce que c'est que la morale ? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.